Je m'excuse pour ce matin s'il y a eu des allées et venues inutiles à 7h30. C'est parce que j'étais retenu trop tard par un évêque, alors on peut rien dire. L'évêque de Gap. Je croyais que le rendez-vous avait lieu à 6h, j'aurais pu arriver plus vite. Or, il y avait le repas, un repas épiscopal, simple, mais ça fait rien. À la cuisine de l'évêque. Donc c'est bien, mais il y avait le vicaire général, alors c'était moins simple. Puis après les discussions. Bon. On continuera au chapitre. On en était au relatif. Donc c'est le cours de 7h30. C'est-à-dire la métaphysique, parce que elle est au-dessus du devenir. Question, la matière première est-elle une relation de raison, puisque purement contingente, ou bien une relation réelle, puisque manifestée par le nécessaire? Entre la matière et la forme, on est en présence de deux principes réels. La matière est toute relative à la forme. Puisqu'elle est toute relative à la forme, il y a une relation réelle entre matière et forme. Puisque les deux sont réels. C'est très vrai qu'au plan métaphysique, la matière n'est qu'un pos, bien qu'elle soit principe réel. C'est un principe réel, la matière. Principe substantiel, d'une certaine manière. Mais qui n'existe que par la forme. C'est-à-dire qui n'existe que dans la forme. Il faut plutôt dire ça, qui n'existe que dans la forme. La matière seule n'existe pas. Donc, la distinction entre matière et forme est une distinction réelle, c'est pas une distinction de raison. Puisque la matière est réelle. Pour Kant, ce serait sans doute une distinction de raison. Il faudrait voir exactement. Puisque pour lui, la matière n'est pas un principe. Elle n'est qu'une condition nécessaire. Donc, si elle n'est qu'une condition nécessaire entre matière et forme, il ne peut y avoir qu'une distinction de raison. Et pour nous, avec le réalisme de la matière et de la forme, vu d'abord au niveau artistique, puis au niveau physique, c'est une distinction réelle. Et donc, la relation qui existe entre matière et forme est une distinction réelle. Et c'est le cas où on a parlé de relation transcendantale. Parce que la matière comme telle n'est pas relation. Elle est un être en puissance. Réelle. Elle est un élément. Relative à la forme. Il faudra parler au terme, je vous parlerai de ce que c'est que la relation de raison, parce que c'est quelque chose d'intéressant. Alors, par rapport à ce que vous avez dit du dernier cours, donc vous rappelez bien, pourriez-vous expliciter ce que vous écrivez dans votre livre, Lettre, tome 2, page 36, note 52. C'est bien, bonne référence. Quand vous dites que saint Thomas précise, il y a des relations qui ne sont réelles en aucun de leurs deux extrêmes, comme la relation d'identité. Oui. La relation d'identité présuppose que je me dédouble. Je suis un réellement et substantiellement. Et je peux parler d'un principe d'identité. Votre carte d'identité. Qu'est-ce que que c'est que votre carte d'identité, métaphysiquement parlant? Vous parlez tout le temps de carte d'identité. Ne faites pas de métaphysique quand on vous demande de présenter votre carte d'identité à la douane. Ma carte d'identité? Ah, relation de raison, monsieur le douanier. Qu'est-ce que c'est que le principe d'identité? Il faut réfléchir là-dessus. Père Carigou Lagrange, ah, c'est toute une espèce de A égale A. Mais est-ce que c'est ça le principe d'identité? A égale A. C'est pas ça. C'est une tautologie, ça. C'est pas le principe d'identité. Le principe d'identité consiste à diviser en nous-mêmes deux aspects. C'est-à-dire ce qu'on est radicalement, substantiellement, et ce qu'on peut être d'après sa photo, dans les apparences. Le principe d'identité. Je sais bien qu'on peut dire « je suis réellement ce que je suis ». Oui, quand vous dites ça, je suis réellement ce que je suis, vous explicitez le principe d'identité. Je suis réellement ce que je suis. Qu'est-ce que vous faites en faisant ça? Réellement ce que je suis, la substance. Je suis, c'est tout l'ensemble. Donc, vous distinguez la partie principale, fondamentale, le principe avec le tout. Mais seul existe tout. Vous n'avez jamais mis dans un bocal votre substance et vous la regardez devant vous. Ah, ça, c'est ma substance. Et puis moi, je suis. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas séparer du tout votre partie principale. Donc c'est uniquement par rapport à l'apparaître et au réel. Oui. Ce serait très intéressant de voir d'où vient le principe d'identité. Ça, c'est une petite recherche philosophique intéressante, parce que le principe d'identité est dans Leibniz. Vous savez que pour Leibniz, il y a deux seuls principes. Je cite souvent Leibniz. Leibniz est très intéressant au point de vue philosophique, parce que c'est celui qu'on considère comme le dernier scolastique officiel. Et Leibniz est une science très universelle, et je crois que c'est lui qui est source de toutes les apologétiques. Alors c'est intéressant, Leibniz. C'est un philosophe qui était européen. Le philosophe vraiment européen est d'une extension extraordinaire, il connaît tout, mais un peu en apparence. C'est pas un métaphysicien du tout, mais il s'étend, il se répand partout, n'est-ce pas? Il a beaucoup écrit. Regardez le rayon Leibniz, la bibliothèque, si on les a tous, je sais pas, mais c'est intéressant de voir ça, si on les a pas tous ici. Regardez, hein. Je crois qu'on a tout quand même. C'est intéressant de voir combien cet homme-là a écrit, combien un cerveau très universel dans l'ordre de l'extension. Intéressant. Alors, pour Leibniz, il y a deux seuls principes, présentes, identité et contradiction. Tout le reste disparaît. Pas de causalité. Alors, il faudrait savoir à quel moment le principe d'identité est apparu. Posez la question. Le principe d'identité, pour moi, ce n'est pas un principe, vous comprenez. C'est simplement, au point de vue manifestation de nous-mêmes, nous nous dédoublons pour mieux nous voir. Donc c'est une distinction de raison, et c'est une relation de raison, tout simplement. Dans d'autres cas, la relation est réelle. Oui, une relation qui repose uniquement sur une division de raison, une distinction de raison, ne peut être qu'une relation de raison. Dans d'autres cas, la relation est réelle. Dans l'un des deux, dans l'un des deux extrêmes, et de raison dans l'autre. Ça, c'est le cas, en théologie naturelle, de la créature et du créateur. En Dieu, être créateur par rapport à la créature, relation de raison. Et la créature, relation réelle. C'est facile à comprendre. Comme dans le cas de la science et du fibulé, donc ce qui est capable d'être source de science, et dans celui de la colonne qui était à droite de l'animal. Oui, ça c'est très amusant, ça c'est d'Aristote. Mais il y a des relatifs qui impliquent en l'un et l'autre extrême une relation existant réellement, en l'un et l'autre extrême. Le cas de l'égalité des similitudes, le cas de l'amitié. Quel est ce type de relation mixte, réelle et de raison? Oui. Toute réalité, dans la mesure même où elle existe, est intelligible. Puisque l'intelligibilité est une propriété de l'être. On dira ça dans un jugement de sagesse. L'être a deux propriétés. L'un est l'intelligible. On verra ça quand on dira. Puisque maintenant on rejuge les principes. Vous voyez ? C'est intéressant ça, à bien préciser. Ce qui est en tant qu'il est. Donc, ce qui est en tant qu'il est. Donc, quand je considère la réalité existante, je saisis ses principes propres. Les principes propres de ce qui est, en tant qu'il est, c'est la substance, l'ousia. Je dis toujours, il faut toujours mettre le grec à côté. Hein. Ça fait bien. Et en même temps, ça vous détourne de l'étymologie. Substance, substare, ce qui se tient en dessous. Alors la substance, c'est pas ce qui se tient en dessous. C'est un principe. Donc ce qui est premier. Le principe ne se tient jamais en dessous. Ça. Parce que si on dit que la substance est ce qui se tient en dessous, on en fait un sujet. Ce que la scolastique décadente a fait. Et puis l'autre principe propre, c'est l'être en acte. Principe propre selon la forme. Principe propre selon la fin. Puisque quand j'essaie d'analyser ce qui est en tant qu'être, il n'y a que deux seuls principes propres. La substance. Principe selon la forme, l'acte, principe selon la fin. Parce que il n'y a pas de principe propre de ce qui est au niveau matière et au niveau causalité efficiente. On le verra ça. Et c'est très important. Il n'y en a que deux qui ont dit qu'un principe propre de l'être selon la matière, c'est Averroès et Lénine. C'est intéressant, ça. Je dis ça. Averroès et Lénine. Averroès dit que la cause, selon la matière, est principe propre. Et Lénine. Et Lénine l'a pris d'Averroès. Il n'a pas inventé ça tout seul. C'est les deux seuls. Le positivisme dit tout le temps, c'est sous-jacent. Mais au point de vue philosophique, comme réflexion philosophique, Lénine a commenté la métaphysique d'Aristote. La confusion de ce qui est mu et de ce qui est. Ce qui est mu implique un principe propre, la matière. Ce qui est au-delà de la matière. Voyez tout de suite les conséquences. Si la matière est principe propre de ce qui est, tout ce qui est en tant qu'il est matériel. Et là, vous avez la dialectique matérialiste. Pour comprendre que la métaphysique est au-delà de la matière, c'est en découvrant la substance. Ce qui est premier dans l'ordre de l'être, c'est un principe selon la forme. Donc l'être, en tant qu'il est déterminé. Et l'être, en tant qu'il est acte. La détermination est quelque chose d'ultime. Donc, il n'y a pas de cause propre de ce qui est en tant qu'il est au niveau matière et au niveau causalité efficiente. Voilà les deux principes propres de la métaphysique. Ce qui fait que la philosophie première ou métaphysique est une science extrêmement simple. C'est la seule science dans laquelle il n'y a que deux causes propres. Ça aussi, c'est très intéressant à noter. Voyez, parce que l'idéalisme qui commence par la métaphysique, par l'idée d'être, ne peut jamais atteindre ce que c'est que la matière. Puisqu'il n'y a que deux aspects, la forme et puis la fin. Alors, ça oublie aussi la fin. Et ça le ramène à la causalité exemplaire. Comme dans toute science, on cherche les principes propres pour déduire, alors là, vraiment, déduire. On induit les principes et on déduit la propriété. Ben, comprenez bien ça. On induit le mouvement de recherche, l'induction. Et on déduit la propriété. Ayant découvert les principes propres, on peut déduire la propriété. Quelle est la propriété de ce qui est en tant qu'il est l'un? L'un, c'est-à-dire l'indivisible. L'un est indivisible, ce qui est au-delà de toute division. L'un est le multiple. L'un est propriété de l'être en acte, le multiple est propriété de l'être en puissance, qui n'est pas un principe. L'être en puissance n'est pas un principe, c'est toujours second. Et il est propriété de l'être accident. L'un est le multiple. Et donc le multiple, c'est quand on distingue l'être en acte, on a l'être en puissance. Et quand on découvre la substance, on a l'être en acte, l'être accident. Et la propriété de l'être en puissance, c'est l'être accident, c'est le multiple. L'accident est toujours multiple. Et être en puissance est source de toute multiplicité. Puis il y a cette autre propriété qui est d'être intelligible. Alors, qu'est-ce que ça représente comme propriété? Parce qu'on dit toujours l'intelligibilité, propriété de l'être. Si on parle avec précision, c'est l'un qui est propriété de l'être. L'acolyte, comme dit Aristote. L'un est l'acolyte de ce qui est. C'est-à-dire qu'il l'accompagne, acolyte, accompagné. Et la propriété accompagne. La propriété montre le rayonnement. Cécile, la manifestation du principe de la propriété. Et l'intelligibilité, l'autre propriété. Mais c'est une propriété de l'être par rapport à l'esprit. C'est très curieux. L'être est en attente de l'esprit. C'est ça qu'on pourrait dire. Vous voyez, c'est deux propriétés totalement différentes. D'un côté, c'est la vraie propriété, l'être en tant qu'être est un. L'être relatif à l'esprit est intelligible. Et l'être parfait est esprit. Donc, c'est la propriété de l'être parfait qui est esprit. Ce n'est pas n'importe quel être qui est esprit. Le caillou, le corps n'est pas esprit. Mais l'être parfait. Alors vous voyez, je ne peux dire ça que dans un jugement de sagesse. Dans un jugement de sagesse, je pourrais dire que l'être premier, qu'on appelle Dieu, selon les traditions religieuses, l'être premier qu'on appelle Dieu est vie. Et les vies spirituelles et esprit. En Dieu, esprit et être ne font qu'un. Mais en Dieu seulement, pas en vous, ni en moi. Même si je pousse beaucoup l'intelligence, mon intelligence ne sera jamais mon être. La preuve, c'est que je dors tous les jours. Et quand vous dormez, votre intelligence est au repos. Pas votre être. Vous pouvez avoir des rêves, mais vous ne pensez pas beaucoup. Heureusement. Alors vous pouvez avoir des révélations, alors votre intelligence se réveille à ce moment-là. Vous pouvez avoir des rêves qui sont des rêves qui viennent des anges. Mais normalement, les rêves, c'est imaginatif. C'est l'imagination qui se rattrape. Pendant toute la journée, l'imagination a été canalisée, très bien canalisée. Puis pendant la nuit, le volcan peut partir dans tous les sens. C'est le règne de l'imaginaire. Vous ne voyez jamais ce que fait Freud. Il divise le conscient qui est le devoir. Pour un stoïcien, Freud travaille sur le stoïcisme. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Le devoir. Pendant la journée, c'est le devoir. Pour Freud. Pas pour moi. Mais pour Freud, la journée, c'est le devoir. Et alors, pendant le sommeil, c'est l'inconscient qui se rattrape. C'est l'imaginaire. Parce que l'imaginaire, c'est pas le travail du tout. Vous voyez, c'est la fuite du travail. Vous savez bien, quand un cours est fatigant, tout d'un coup vous arrêtez et vous êtes pris par une distraction du rossignol qui chante. Là, c'est l'imaginaire qui se repose, il se venge. Parce que c'est dur, être attentif. Alors vous voyez les distinctions, c'est très intéressant de voir ça parce que ça montre bien le domaine de l'imaginaire qui est en nous, mais qui n'est pas du tout le domaine de l'intelligence. Seul pour l'être premier, donc seul pour Dieu, être et esprit ne font qu'un. Et comme toute réalité provient de la sagesse de Dieu, tout être en tant qu'il est intelligible. Parce qu'il provient de la sagesse de Dieu. Oui, ça. Donc c'est la propriété ultime de l'être dans une vision de sagesse. Je ne peux pas le dire autrement. Dans une vision de sagesse. Dans une vision de sagesse, c'est intéressant. Ce qui montre ce qu'il peut y avoir de vrai dans l'affirmation hegélienne et idéaliste. entité rationnelle existe.
Non.
Je dirais non. Tout ce qui est rationnel n'existe pas nécessairement. Parce que pour nous, l'intelligence n'est que propriété. C'est pas l'être. Tandis que dans une vision idéaliste, l'intelligence, c'est l'être. Ce qui n'est pas intelligent n'existe pas. Vous voyez la conséquence. Le mystère est un supra-intelligible. Donc n'existe pas. C'est un mythe. C'est très important de saisir, vous voyez, ces deux points de vue. Que l'être égale l'esprit lorsque vous êtes en présence de Dieu. Alors c'est vrai. Mais pour Dieu seul, ce que Parménide avait très bien vu quand il disait que le Tau Einein et le Tau Noein sont identiques. Vous pouvez mettre le Tau Noein. Oui, l'être et la pensée sont identiques. Voyez, où situer l'intelligibilité. Or, l'intelligibilité fait que, quand je dis que l'être est intelligible, je saisis la relation transcendantale de l'être par rapport à l'intelligence. L'être est relatif à l'intelligence, et l'intelligence est relative à l'être. La fameuse phrase de saint Thomas, primo cadit in intellectus ens, que saint Thomas dit 173 fois. Et il prend ça à Avicenne. Ici c'est Avicenne. Avicenne dit qu'est-ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, ce qui est. Donc, l'intelligence est déterminée par ce qui est, et ce qui est, en tant qu'il est relatif à l'intelligence, puisqu'il est intelligible. Alors vous voyez que vous êtes en face d'une relation réelle du côté de l'intelligence, de raison du côté de l'être. Et si vous confondez cette relation de raison et la relation réelle, vous direz, la pensée mesure l'être. Oui, comme c'est très important de saisir ces choses-là, parce qu'on saisit les confusions qui se font si facilement. Dans le panthéisme, vous dites la même chose, vous voyez. Mettez ça en parallèle. Parce que ces choses-là montrent combien le relatif, comme il est extrêmement débile dans sa réalité, comment la relation, qui est aussi bien une relation réelle que une relation de raison, est source de toutes les confusions. Alors je mets créateur, Dieu créateur, ce que le philosophe peut atteindre, et créature. L'homme, dans une vision de sagesse, est créature. Entre créateur et créature, c'est une relation. Cette relation est réelle du côté de la créature. Elle est de raison du côté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la créature, dans sa réalité, est totalement dépendante de Dieu. Tout ce qu'elle est en tant qu'elle est dépend de Dieu, dépend du Créateur. Vision de sagesse. Ça présuppose que l'intelligence ait découvert l'existence de Dieu et présuppose que découvert que Dieu est le Créateur. Donc, théologie naturelle. Après avoir fait ça, je peux dire que la créature est en relation réelle vis-à-vis de Dieu, mais Dieu, n'est pas en relation réelle vis-à-vis de nous. Puisque l'acte créateur de Dieu n'ajoute rien à Dieu. Dieu est infini. Il est infini dans son être. Donc la création, l'acte créateur de Dieu, n'ajoute rien à Dieu. Mais c'est mon intelligence qui complète cette relation réelle. Puisque le fondement de cette relation réelle, c'est l'acte créateur. L'acte créateur est réel en Dieu et en moi aussi, dans son effet. Mais il n'ajoute rien à Dieu. Donc, quand je mets la créature relative à Dieu et que je dis que créateur est relatif à la créature, du côté de Dieu, c'est une relation de raison. Alors, mettez en parallèle, parce que ça c'est intéressant, c'est les deux relations ultimes et dernières de toute la philosophie, mettez en parallèle ce qui est en tant qu'il est. Ce qu'il est intelligible à l'égard de l'intelligence humaine. L'intelligibilité de ce qui est à l'égard de l'intelligence humaine. Relation de raison. La réalité, pour la réalité, être connu ne la change pas. Est-ce que quand vous voyez une rose, vous dites cette rose est écarlate. Est-ce que ça modifie la rose d'être vue par vous? Non. Elle ne rougit pas, puisqu'elle est déjà écarlate. Ça ne change pas. L'être, du fait qu'il est connu, n'est pas modifié. Qu'est-ce qui est modifié? C'est mon intelligence. L'intelligence qui atteint la réalité. L'intelligence qui atteint la réalité. Et donc, c'est la pensée. Penser l'être, pour prendre l'expression de Heidegger. Penser l'être modifie mon intelligence. Est en acte. Donc, du côté de l'intelligence, penser l'être, penser ce qui est en tant qu'il est, c'est une relation réelle. Et du côté de la réalité, c'est une relation de raison. Oui, c'est très intéressant pour l'intellect agent, puisqu'on y revient tout le temps. C'est grâce à l'intellect agent que je pense l'être. Est-ce que mon intellect agent est changé quand il pense? Oui, il est actué. Il est finalisé. Mon intellect agent, il est fait pour connaître l'être. Donc, il est finalisé. Et la réalité, elle, n'est pas changée. Donc, vous avez relation réelle, relation de raison. Et si vous confondez les deux, si vous brouillez les cartes, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que l'être est tout entier tourné vers l'intelligence, puisque l'intelligence est une propriété de l'être. Donc, l'être est tout entier tourné vers l'intelligence. Et c'est l'intelligence qui l'actue. Vous faites de la relation de raison une relation réelle. Et vous avez l'idéalisme. Confusion de la relation réelle et de la relation raison. Et ici, du côté de A, B, A, si vous confondez les deux, qu'est-ce que vous avez? Le panthéisme. Si vous confondez la relation de raison et la relation réelle en disant que ce qui est créé finalise Dieu. Dieu est fait pour créer. Donc, en tant que créature, je finalise Dieu. Je suis sa gloire. Je suis sa fin. Je suis sa victoire. grâce à moi, tu es victorieux. C'est le panthéisme. Ah oui, comme c'est curieux. L'idéalisme et le panthéisme, tous les deux font la même confusion. À l'égard de deux aspects extrêmes, l'être et le créateur. Oui.
La distinction relation réelle, relation présente, c'est en logique qu'on l'a fait.
Non. En critique.
En critique, s'il vous plaît.
Oui. Je veux bien. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La logique regarde l'être de raison et ne peut pas regarder la relation réelle. La logique est médusée par la relation de raison. Tandis que la critique, elle, regarde le fondement de toute connaissance, l'intelligibilité, qui est réelle. Oui. Et c'est en critique que je distingue les deux. Pourquoi ? Parce qu'en critique, je vois que ma connaissance est spécifiée par l'intelligibilité, est déterminée. Et dans le jugement d'existence, je touche l'être réel. Donc je suis capable, en critique, de justifier ce qu'est la vérité. Que ma connaissance est conforme au réel. Et quand je dis que ma connaissance est conforme au réel, je montre justement que du côté de ma connaissance, la vérité est une relation réelle, et du côté de la réalité, c'est une relation de raison. Ça, c'est la critique. Alors, il y a une parenté entre critique et logique, puisque tous les deux sont des connaissances réflexives. Là, je vous accorde qu'il y a un petit quelque chose de commun. Mais c'est que logique et critique, tous les deux, c'est une partie réflexive. Et que c'est vrai, je ne touche pas la distinction relation-raison et ration réelle. C'est pour ça que je peux si facilement en faire la confusion. Je crois que c'est la grande confusion du positivisme. Et de tout l'idéalisme. Et de tout le panthéisme. Et donc de tout l'ontologisme. Oui. Ah, c'est des confusions extrêmement subtiles, mais extrêmement intéressantes et simples. Je peux très bien comprendre que quand je regarde une rose écarlate, elle ne rougit pas parce que je la connais. Mais moi, je suis changé parce que je porte en moi la connaissance de cette rose écarlate. Mais ma connaissance ne modifie pas le réel, mais je suis modifié par le réel. Ça, c'est capital, ça, pour montrer le primat de la réalité par rapport à la connaissance. Et ça, c'est toute la critique. Qui en définitive aboutit à ça. Distinction de relation de raison et de relation réelle. Donc vous voyez, l'importance de cette réflexion métaphysique sur la relation. Et de comprendre que la relation de raison est, comprenez bien, une vraie relation, mais qui n'existe que par l'intelligence. La seule chose que l'intelligence est capable de créer, c'est la relation. C'est pour ça qu'on l'aime tant. L'artiste crée de vraies relations nouvelles, une harmonie. C'est pour ça que saint Thomas dit que la beauté, c'est une harmonie, une proportion, c'est une relation. Et constamment, la science mathématiques. Elle découvre de nouvelles relations. Et le génie mathématique, c'est de découvrir de nouvelles relations dans le point de vue du possible. Et je crois que toute intuition, c'est découvrir une nouvelle relation. L'intuition reste au niveau des relations, pas au niveau de l'être, au niveau des relations. Alors si je confonds relations réelles et relations de raison, j'aurais la tentation de dire que j'ai l'intuition de l'être. Alors, en réalité, je n'ai pas l'intuition de l'être, mais j'ai l'intuition de nouvelles relations. Donc il faut beaucoup réfléchir là-dessus, sur la distinction relation réelle, relation de raison. Et en faisant cette réflexion, vous arrivez petit à petit à mieux saisir ce qu'est la relation en elle-même. L'âde, le vert, être vert, tourner vert. Et vous comprenez mieux comment l'être implique ces deux grandes dimensions. La substance. Est à la fois entièrement tourné vers lui-même et entièrement pour l'autre. Alors on comprend comment, voyez, un Sartre arrivera à dire l'être en soi. Pour lui, c'est la substance, c'est le manche à balai, et l'être pour soi. Tourner vers. Et c'est pas la même chose.